Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mercredi 1er mai 2024. Voici d'abord les principaux titres. Mort d'un commandant clé du groupe islamique dans le Grand Sahara, quelles conséquences pour la sécurité régionale?
C'est un ennemi de moins, parce qu'on ne le sait pas, on ne connaît même pas sa nationalité. Il est venu chez nous, nous terroriser, et au Niger, au Mali, il a posé des actes très violents contre les militaires maliens, nigériens et même américains.
La MONUSCO met fin à ses opérations dans le sud Kivu, malgré les affrontements persistants avec le M23. Mandat d'arrêt international contre l'ancien président de la République centrafricaine, François Bozizé, pour des crimes présumés contre l'humanité. Suspension temporaire des activités politiques, une proposition phare dans le dialogue national au Gabon. En Guinée, les coupures d'électricité plongent Conakry dans l'obscurité et perturbent la vie quotidienne.
Aujourd'hui, il est très difficile pour moi de pouvoir subvenir à ces besoins-là. Donc j'aimerais demander au président de voir nous qui avons les petites entreprises, nous sommes tous au chômage présentement.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est à Jérusalem pour des discussions avec le Premier ministre Netanyahou. Edgar Leblanc fils, élu président du Conseil de transition en Haïti, promettant de travailler vers un consensus pour résoudre la crise sécuritaire. Human Rights Watch critique l'application mobile pour demander l'asile aux États-Unis à la frontière mexicano-américaine. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo pour l'instant le journal. La MONUSCO a annoncé la cessation de ses opérations dans la province du Sud Kivu en RDC, conformément au plan de retrait souhaité par Kinshasa. Cependant, les affrontements entre l'armée et le M23 persistent dans la région. Yakuba Ouedraogo.
À partir du 1er mai, le mandat de la mission prend fin dans le Sud Kivu, y compris sa responsabilité de protéger les civils qui incombe désormais aux forces de défense et de sécurité de la RDC, précise le communiqué de la MONUSCO. Seul le personnel en uniforme nécessaire pour assurer la sécurité du personnel, des installations, des convois et du matériel de l'ONU y sera maintenu jusqu'à la fin des activités de retrait, poursuit le texte. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé du retrait de la force avant la fin du mois d'avril 2024. Les autorités congolaises ont réclamé le départ de la MONUSCO, créée il y a 25 ans et encore présente dans les trois provinces les plus troublées de l'est de la RDC, l'Ituri, le nord et le sud Kivu, la jugeant inutile. De violents combats ont opposé hier le M23 aux forces congolaises autour de la cité minière de Rubaya, dans l'est selon des sources locales. Les rebelles ont pris plusieurs collines surplombant la ville, a déclaré un habitant.
Un tribunal spécial soutenu par l'ONU a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président de la République centrafricaine, François Bozizé. Ce mandat fait suite à une enquête sur son implication présumée dans des actes pouvant constituer des crimes contre l'humanité perpétrés par des militaires dans une prison entre 2009 et 2013. Jean-Roger Bion.
Le mandat d'arrêt international a été émis le 27 février, précise un communiqué de la Cour pénale spéciale basée à Bangui et créée en 2015 avec le parrainage de l'ONU. Des juges de la CPS ont émis ce mandat dans le cadre d'une instruction sur de possibles crimes contre l'humanité commis par la garde présidentielle de M. Bozizé entre février 2009 et mars 2013 dans une prison civile et un centre d'instruction militaire à Bossambélé, dans le centre de la Centrafrique. Ces crimes présumés incluent des meurtres, disparitions forcées, tortures, viols et autres actes inhumains. François Bozizé, 77 ans, qui s'était emparé du pouvoir en 2003 par un coup d'État avant d'être renversé 10 ans plus tard par des rebelles, est aujourd'hui exilé en Guinée-Bissau depuis mars 2023. Amnesty International réagissant à ce mandat d'arrêt, tout comme la CPS appelle les autorités de la Guinée-Bissau à mettre en œuvre ce mandat en l'arrêtant et en le remettant sans délai aux autorités centrafricaines en vue de sa comparution devant la Cour pénale spéciale.
Dans le cadre du dialogue national au Gabon, le président de transition, le général Brice Oligui Nguema, a reçu un flot de suggestions totalisant près de 1000 propositions. Parmi celles-ci, émergeait l'idée de suspendre temporairement les activités des partis politiques. Claire Morizibourg.
Les conclusions du DNI, ou Dialogue National Inclusif, ont été remises hier au général Nguema lors de la cérémonie de clôture au palais présidentiel de Libreville. Cette consultation nationale veut préparer le retour des civils au pouvoir par des élections en 2025. Le DNI préconise de suspendre tous les partis politiques légalement reconnus en attendant la mise en place des nouvelles règles régissant leur création et leur vie, a lu Muriel Minkwe Mintsa, ministre de la réforme des institutions. Le PDG ou Parti démocratique gabonais de l'ancien président déchu Ali Bongo et les mouvements alliés devraient être suspendus pour 3 ans avec effet immédiat. Des enquêtes diligentées contre ces dirigeants et cadres anciens et actuels ont été demandées. Ces derniers devraient également être frappés d'inéligibilité pour les prochaines élections présidentielles, législatives et locales. La proposition de pouvoir étendre d'un an si nécessaire la période de la transition militaire avant des élections a également été proposée.
Londres a expulsé lundi un premier demandeur d'asile vers le Rwanda, ont rapporté mardi des médias britanniques, une semaine après l'adoption d'une loi très controversée permettant d'envoyer à Kigali des migrants arrivés illégalement dans le pays. Le gouvernement compte commencer les expulsions dans ce cadre d'ici juillet. Leur demande d'asile sera examinée au Rwanda et ils ne pourront pas revenir au Royaume-Uni, quelle que soit l'issue de leur démarche. L'Éthiopie s'est dite mardi consternée par la décision de l'Union européenne de durcir les conditions de délivrance de visa pour ses ressortissants, réfutant tout manque de coopération pour le retour dans leur pays des Éthiopiens en situation irrégulière. Les Éthiopiens désireux de se rendre dans l'Union européenne ne pourront plus bénéficier d'une dérogation sur les documents à fournir lorsqu'ils demandent un visa, ni ne pourront plus bénéficier d'un visa à entrée multiple, a annoncé lundi le Conseil de l'Union européenne. En outre, le traitement d'une demande de visa passe de 15 à 45 jours.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le tout nouveau conseil de transition en Haïti a élu Edgar Leblanc-Fils comme président. Il s'est engagé à œuvrer pour le consensus, visant ainsi à unir les membres de l'organe pour trouver des solutions à la crise sécuritaire profonde que traverse le pays. John Linden.
L'annonce a été faite sous les applaudissements lors d'une cérémonie officielle retransmise en direct à la télévision haïtienne. Edgar Leblanc-Fils, en ancien président du Sénat, aura un rôle de coordination au sein de l'organe mis sur pied après la démission du premier ministre contesté, Ariel Henry. Les 9 membres de ce conseil ont été investis la semaine dernière avec pour mission le rétablissement de l'ordre public dans un pays ravagé par les gangs. Dans son discours, le nouveau chef des autorités de transition a assuré de la volonté et de la détermination des nouveaux dirigeants à dépasser les chapelles, à dépasser les conflits et à chercher le consensus au maximum. Le nouveau président du Conseil a été sélectionné à l'issue d'un accord entre les 7 membres ayant un droit de vote au sein de l'organe et non d'une élection interne comme prévu. Une majorité des membres de l'organe a en outre proposé le nom de Fritz Belizer, un ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, pour qu'il devienne premier ministre.
L'ex-président américain Donald Trump a été condamné mardi à 9 000 $ d'amende pour s'en être pris publiquement aux témoins et juré à marge de son procès pénal à New York. Donald Trump est prévenu que la Cour ne tolérera pas la poursuite de violations délibérées de ses ordres si cela est nécessaire et approprié. Elle imposera une peine d'emprisonnement, écrit le juge Juan Merchant dans sa décision rendue dès la reprise des débats. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken doit s'entretenir ce mercredi à Jérusalem avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. À l'heure où Washington exhorte le Hamas à accepter sans plus tarder une trêve à Gaza, mais aussi Israël à renoncer à son offensive à Rafah. Après une réunion lundi au Caire avec des représentants de l'Égypte et du Qatar, une délégation du Hamas a regagné Doha afin d'étudier la nouvelle proposition de trêve et devrait donner sa réponse aussi vite que possible, selon une source proche du mouvement. L'université américaine Brown, d'un groupe prestigieux de campus du nord-est des États-Unis, a annoncé un accord avec ses étudiants pro-palestiniens à propos de la guerre dans la bande de Gaza. Le conseil d'administration de l'université promet de se prononcer sur d'éventuels désinvestissements de sociétés qui rendent possible et profitent de la guerre à Gaza. L'accord à Brown est la première concession accordée par une université d'élite au mouvement étudiantin qui s'est propagé depuis 2 semaines à travers tous les États-Unis. En revanche, la police de New York est intervenue mardi soir sur le campus de l'université Columbia pour y déloger des étudiants et militants pro-palestiniens barricadés depuis la nuit précédente dans un bâtiment. L'obligation pour les demandeurs d'asile aux États-Unis d'obtenir un rendez-vous sur une application mobile avant de se présenter à la frontière avec le Mexique livre les migrants à la violence des cartels, déplore ce mercredi Human Rights Watch. Depuis mai 2023, sauf mineurs isolés, ils sont censés obtenir un rendez-vous sur l'application téléphonique. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, nous retrouvons ce matin Jean-Roger Dion dans sa Minute Éco.
Au Zimbabwe, une nouvelle monnaie adossée à l'or a commencé à circuler dans le pays mardi. Le ZIG, abréviation de Zimbabwe Gold, or du Zimbabwe, a officiellement remplacé au début du mois le dollar zimbabwéen qui avait perdu quasiment toute sa valeur, mais il était jusqu'à présent purement virtuel. Le gouvernement britannique a annoncé mardi imposer des sanctions contre 3 personnalités politiques de l'Ouganda, dont la présidente du Parlement, les accusant de corruption. C'est la première fois que des personnalités politiques ougandaises sont ainsi visées. Les 3 personnes concernées seront soumises à des interdictions de voyager et à des gels d'avoir au Royaume-Uni. L'Organisation mondiale de la santé est informée fréquemment sur l'épizootie de grippe aviaire aux États-Unis. Les experts s'inquiètent du nombre croissant de mammifères infectés par la maladie, même si les cas chez les humains restent très rares.
Et nous passons directement à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Ligue des champions, le Real Madrid et le Bayern Munich se sont neutralisés en match aller.
Au terme d'une rencontre à rebondissement avec un pénalty de chaque côté, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont séparés dos à dos avec un match nul 2-2. Tout se jouera donc mercredi prochain au stade Santiago Bernabéu pour une place en finale à Wembley le 1er juin entre les 2 plus grands clubs de l'histoire du football européen.
Puis Yacouba, suite F1 ce mercredi des demi-finales à Ligue des champions en Europe.
Le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain se retrouvent pour une place en finale de Ligue des champions après 2 rencontres lors de la phase de groupe. Victoire parisienne 2-0 à l'aller et match nul 2-2 en Allemagne. Les Allemands évolueront sans leur attaquant international ivoirien, Sébastien Haller, blessé.
Cyclisme avec le Tour du Bénin qui se poursuit.
L'Agaba Azedine partira de Parakou à Savin en maillot jaune pour la 2e étape, 156,420 km. Hier, lors de la première étape courue entre les villes de Bunkumbe et de Djougou, 125,800 km, le coureur algérien de l'équipe Bike Aid a devancé au sprint l'Érythréen Hab Tehab Joel, classé 2e, et le Marocain Ashraf qui a fini 3e. Ils sont plus de 60 coureurs venus de plusieurs pays africains et européens à prendre part à ce Tour du Bénin qui va s'achever dans les rues de Cotonou ce samedi 4 mai.
Athlétisme, avant de nous quitter, Angelina Nadai et Lohalit suspendus pour 2 pages.
L'athlète sud-soudanaise, membre de l'équipe olympique des réfugiés, a été contrôlée positive à un produit dopant et suspendu à titre provisoire, a annoncé l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Née en 1995, Angelina Nadai Lohalit, réfugiée en 2002 au Kenya pour fuir la guerre, a fait ses débuts aux Jeux de Rio en 2016, puis fait partie de l'équipe olympique des réfugiés aux Jeux de Tokyo en 2021, où elle s'était alignée sur le 1500 mètres. Elle avait été éliminée dès les séries.
La page des sports signée Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. L'armée malienne a annoncé la mort d'Abou Ouzeïfa, également connu sous le nom d'Hugo, un commandant du groupe islamique dans le Grand Sahara. Selon l'armée malienne, sa mort est survenue au cours d'une opération dans la région de Ménaka, située dans le nord du pays. Cette nouvelle suscite des réflexions sur l'impact potentiel de cette disparition sur les activités et la capacité opérationnelle du groupe islamique dans la région, ainsi que sur les dynamiques sécuritaires plus larges du Mali et des pays voisins. Nani Tetalani, adjoint à Bamako, au Mali, Boubou Kabeuy, président de la société civile à Bougouni, au Mali.
Le tableau de la situation sécuritaire au Mali est tel que les forces armées maliennes ont fait une avancée notoire. Ils ont récupéré en tout cas des villes stratégiques, notamment Kidal et autres en main des djihadistes. Et voilà que ces djihadistes, terroristes et autres bandits sont en cabale, mènent des actions sporadiques, non seulement contre les femmes par endroit, mais aussi contre les populations civiles. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes loin des souvenirs en tout cas de 2012, 2013, 2014, où alors la situation sécuritaire était désespérante. Mais là où on est aujourd'hui, ça commence à aller.
L'armée malienne vient de reconnaître la mort d'un grand terroriste, Abou Ouzeïfa. Qu'est-ce que cette mort peut signifier?
L'élimination d'un djihadiste, c'est toujours réconfortant. L'élimination d'un terroriste, c'est toujours réconfortant. Alors ceux-là qui veulent faire de notre pays un sanctuaire terroriste, chaque fois qu'un d'entre eux est éliminé, alors c'est réconfortant pour nous autres. Et là, je vous dis que ça fait remonter en tout cas le moral des troupes. Les femmes sont toutes enthousiasmées d'avoir neutralisé un terroriste dont la tête même était mise à prix par le département d'État américain. C'est salutaire, c'est un ennemi de moins, parce qu'on ne le sait pas, on ne connaît même pas sa nationalité. Il est venu chez nous nous terroriser et au Niger, au Mali, il a posé des actes très violents contre les militaires maliens, nigériens et même américains. Donc son élimination nous réconforte à plus d'un titre. Nous félicitons nos femmes qui ont mené cette action et souhaitons que d'autres soient voûtés hors de notre pays.
Comment l'élimination d'Abou Ouzeïfa affecte-t-elle la dynamique sécuritaire au Mali, mais aussi dans la région?
Le terrorisme, c'est comme une nébuleuse, un monstre à plusieurs têtes. Chaque fois qu'il y a une tête qui tombe, alors il y a une autre tête qui sort. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser pour mettre un autre Hugo à sa place. Mais dans tous les cas, nous nous sommes réconfortés et nous souhaitons que nos forces armées puissent faire en sorte que la peur qui est dans leur camp là soit maintenue, que tous les nids des terroristes soient anéantis. Les villages impactés par le terrorisme, par les actions des terroristes, se voient un peu alors soulagés de la mort d'un terroriste du Sénat.
Boubou Kabeuy, président de la société civile à Bougouni, au Mali.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan sur les élections législatives et régionales au Togo. La communauté des États sahélo-sahariens juge le double scrutin libre, équitable et transparent, alors qu'Amnesty International fustige un vote sur fond de musellement des voix dissidentes. Pourquoi la nouvelle constitution est-elle vue comme une manœuvre pour maintenir le chef de l'État Faure Gnassingbé à la tête du pays, ou bien, comme l'affirme le parti au pouvoir, la réforme va-t-elle permettre de renforcer les acquis démocratiques? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Les autorités américaines sont en pourparlers pour retirer leurs troupes du Niger suite à l'annulation par les militaires au pouvoir à Niamey d'un accord de longue date. Le Niger devient ainsi le dernier pays du Sahel à éjecter les forces occidentales, optant plutôt pour leur remplacement par des troupes russes. Les analystes soulignent que des actions similaires dans d'autres pays voisins du Niger, tels que le Mali et le Burkina Faso, n'ont pas conduit à une amélioration de la sécurité militaire. Le reportage de Henry Wilkins est relaté par Jean-Roger Dion.
Le département d'État américain a annoncé mercredi dernier que des négociations étaient en cours sur le retrait des forces américaines du Niger. Deux semaines plus tôt, des troupes russes ont débarqué à Niamey pour apporter un soutien en matière de sécurité dans le conflit qui oppose le pays depuis 9 ans à des combattants liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Le Niger est le dernier pays du Sahel luttant contre une insurrection, a éjecté les forces occidentales et à les remplacer par des troupes russes après le Burkina Faso et le Mali voisin. L'analyste Bakary Sambé de l'Institut de Tombouctou estime qu'il est peu probable que cela améliore la situation sécuritaire sur place.
Le fait de dire que nous chassons la France, pour le cas du Mali, nous chassons la France pour avoir la Russie, n'est pas un signe de souveraineté. Au contraire, on a encore délégué sa souveraineté. La vraie souveraineté, ça tient que la Russie, au regard de sa trafiquante en Centrafrique et ailleurs, puisse apporter une aide conséquente.
Les chiffres fournis par le Armed Conflict Location and Event Data Project montrent que les attaques meurtrières ont continué d'augmenter après l'arrivée des troupes russes au Mali en décembre 2021. Les décès dus au conflit ont plus que doublé en 2022 par rapport à l'année précédente. Au Burkina Faso, les décès dus au conflit ont doublé en 2023, année du retrait de la France. Les troupes russes sont arrivées en janvier 2024. Néanmoins, le sentiment anti-occidental a augmenté dans tout le Sahel ces dernières années, en particulier contre la France, l'ancienne puissance coloniale de la région.
Mais il faut aussi partir du principe que la présence des troupes occidentales qui sont là depuis presque 10 ans n'a pas réussi à inverser cette tendance. C'est-à-dire que
les théories du complot selon lesquelles les forces occidentales aident les djihadistes sont également répandues au Sahel, en partie à cause des campagnes de désinformation russes, selon les experts. Les médias internationaux ont présenté le départ des troupes américaines comme une victoire pour les intérêts géopolitiques russes, mais Hassan Kone affirme qu'il s'agit du droit du Niger de choisir ses partenaires.
Non, je ne vois pas ça comme une victoire de la Russie, et ce n'est pas d'ailleurs, à mon avis. C'est une interprétation que je trouve un peu simpliste, parce que le Niger est un État souverain et ses dirigeants.
Les deux analystes interrogés par la VOA s'accordent à dire que le départ des Américains laissera de grandes lacunes dans la capacité du Niger à mener des opérations militaires, notamment en matière de collecte de renseignements. Il est possible que toutes les troupes américaines ne se retirent pas, a déclaré jeudi un haut responsable militaire américain à l'agence Associated Press. Il a précisé que les négociations avec le Niger se poursuivaient.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Depuis quelques mois, la Guinée fait face à des coupures d'électricité récurrentes. À Conakry, la capitale, les habitants subissent des interruptions d'électricité allant jusqu'à 12 heures par jour, de 7 heures du matin jusqu'à 19 heures au plus tard. Ces délestages ont un impact significatif sur les activités des petites et moyennes entreprises de la région. Cette situation est rapporté par notre correspondant sur le terrain, Zakaria Camara.
Chaque jour, l'électricité du Guinée procède au délestage pendant la journée sur le réseau interconnecté de Conakry. L'ancien Camara, photographe, fait face depuis quelque temps aux plaintes de ses clients.
Lorsque quelqu'un envoie son image chez vous, vous devez lui donner un rendez-vous. Et qu'il y a la coupure, et cela prend 2 à 4 heures de temps, obligatoirement, ce dernier va se qualifier de menteur. Lorsque le temps n'est pas bien géré, à cause du coupure du courant, vous perdez en revenu. Certains clients peuvent vous quitter à cause de ça et partir là où il y a le courant à tout temps.
Si la grande partie de la capitale est privée de courant électrique de 7 heures jusqu'au soir, un certain nombre de quartiers devra attendre minuit pour être connectés conformément au programme de desserte établi par EDG. Selon l'économiste Mohamed Camara, cette situation a des conséquences pour les PME, mais aussi pour l'État.
Quand on prend le manque à gagner que cela peut représenter, tant pour l'État en termes d'imposition que pour les sociétés, en termes de, par exemple, de perte de parc de production, en termes de volume de vente, etc., ça représente des centaines de milliards.
Face aux enjeux liés au délai de livraison, certains entrepreneurs, à l'image de Mohamed Djakité, se tourne vers d'autres sources d'électricité. Mais malgré cette solution alternative, son restaurant tourne au ralenti.
Je paye le local à 3 millions de francs guinéens et mes employés qui étaient là aussi, la totalité du mois me revenait à 9 millions le mois.
sans compter moi-même mes petites dépenses. Aujourd'hui, il est très difficile pour moi de pouvoir subvenir à ces besoins-là. Donc j'aimerais demander au président de voir nous qui avons les petites entreprises, nous sommes tous au chômage présentement.
Pour justifier le délestage, Électricité de Guinée évoque le manque d'eau impactant les barrages hydroélectriques, l'explosion survenue au principal dépôt pétrolier ayant entraîné la perte d'une centrale thermique à Corentie, mais aussi des pannes signalées au niveau des autres centrales thermiques. Des informations diffusées au quotidien, mais qui n'ont pas empêché des manifestations dans certains quartiers de la capitale. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Qui, pour succéder à Al Ahly d'Égypte, champion en titre de la Basketball Africa League, la saison 4 de la balle bat son plein sur le continent. La course est ouverte et sera bouclée après les matchs de poule dans trois conférences, Kalahari à Pretoria, Nil au Caire et Sahara à Dakar, et à l'issue des matchs des play-offs à Kigali au Rwanda. 12 équipes, 48 matchs à disputer pour désigner un seul champion. Vous pouvez suivre les rencontres sur voafrique.com et sur nos antennes et radios partenaires. Nous vous proposons aussi des podcasts et des résumés des temps forts des matchs. La VOA, partenaire de la Basketball Africa League, vous invite sur son parquet. À vous de jouer.
Le Nigeria prévoit d'établir une force locale dans chacune de ses 36 États du pays pour contrer les attaques de militants, les enlèvements massifs et les activités de banditisme qui ont ravagé le pays. Cette police d'État vise à renforcer les effectifs de la police nationale qui est dépassée par la montée de la violence avec ses plus de 300 000 membres. Les réactions des Nigérians à cette décision sont mitigées, comme le précise ce reportage de Timothy Obiezu depuis Abuja, relaté par Thierry Kaoré.
Le soir du 14 octobre de l'année dernière, Latifa Ibrahim, étudiante nigériane dont nous avons changé le nom pour protéger son identité, rentrait chez elle, hors du campus, lorsque cinq hommes armés l'ont enlevée avec deux de ses camarades de classe dans la communauté de Gandou, au nord du Nigeria. Elle dit avoir entendu les cris et les luttes de ses amis alors qu'elles étaient apparemment violées par les ravisseurs.
Ils l'ont fait devant nous, ils les ont violés devant nous. Même si nos yeux étaient couverts, nous avons été battus. Nous n'avons pas été bien traités.
Elle dit avoir eu la chance d'être épargnée par les violeurs. L'incident a été signalé à la police et aux autorités scolaires. Les trois jeunes filles ont été libérées 4 jours plus tard, après que leurs familles eurent versé séparément des rançons. La famille d'Ibrahim a versé 5 millions de naira, soit environ 3 400 $, aux ravisseurs pour obtenir sa libération.
Ma famille était pressée et inquiète, ce n'était pas facile. Surtout ma mère, elle était tellement bouleversée.
Les enlèvements contre rançon sont l'une des principales menaces qui pèsent sur le pays le plus peuplé d'Afrique, alors que la crise économique continue de s'aggraver. Pour résoudre ces problèmes, les autorités nigérianes ont décidé en février de créer des unités de police d'État pour renforcer les forces de police nationale. Chaque État nigérien sera habilité par la loi à coordonner et à gérer cette force si la loi est adoptée. La nouvelle législation doit encore être approuvée par le Sénat. Les Nigériens ordinaires estiment qu'il s'agit d'une bonne décision tant qu'elle est correctement appliquée. Simo Ibu et Francis Oparanozi, résidents d'Abuja, ont parlé du projet.
Les personnes qui constituent les forces de police sont les habitants de la région. Ils connaissent les coins et les recoins de ces endroits et ils seront capables de s'attaquer aux problèmes d'insécurité mieux que les étrangers qui sont affectés à l'État en tant que policiers.
Ils choisiront des gens de cette région. Nous connaîtrons nous-mêmes tout ce qui se passe dans cette région. Cela réduira beaucoup de choses. Mais le pire, c'est que les politiciens s'en serviront pour intimider leurs opposants.
La police nigériane est la plus mal notée des 11 institutions publiques étudiées l'année dernière par l'Afrobaromètre, un réseau de recherche panafricain. Des allégations de brutalité, d'extorsion et de torture sont fréquemment formulées à l'encontre des policiers, une accusation souvent contestée par la police.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakidza à ce micro. Fatouma Alimas et Kalala a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos